Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Cantot-Sperber. La nature, la liberté et le sacré, ou encore la signification morale de l'écologie, avec Catherine Larère. La nature est chargée de multiples valeurs. Valeurs d'égalité, d'intégrité. Elle assure la préservation, une continuité avec le passé. Mais en même temps, les philosophes n'hésitent pas à en faire une figure du déterminisme, redoutablement opposée à la liberté. L'écologie, son développement, ainsi que la préoccupation environnementaliste ont radicalement changé la donne. De quelle façon ces deux soucis si caractéristiques de notre époque ont-ils affecté la représentation de la nature? L'ont-ils sacralisé? L'ont-ils sécularisé? Merci Catherine Larère d'être avec nous. Vous venez de diriger un ouvrage intitulé « Y a-t-il du sacré dans la nature ?» sous votre direction et celle de Bérangère Huron, paru aux publications de la Sorbonne tout récemment. Et par ailleurs, vous êtes professeur de philosophie et vous avez abondamment travaillé sur l'économie politique au XVIIIe siècle, mais aussi sur la philosophie de la nature, en particulier dans l'ouvrage que vous avez publié en 1997 avec votre époux Raphaël Larère, « Du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement ». C'était une publication sur un thème qui avait jusque-là peu fait l'objet d'investigations philosophiques. Qu'est-ce qui vous a incité à publier cet ouvrage et à provoquer cette recherche collective sur les significations de la nature?
La redécouverte de la nature, un peu par hasard, au moment du sommet de Rio, où je me suis retrouvée un peu par hasard dans un colloque d'éthique environnementale et où j'ai découvert des questions que je n'avais jamais abordées.
Il y a une vingtaine d'années.
Il y a une vingtaine d'années, mais ça ne me paraît pas très vieux parce que ça faisait une grosse rupture avec ce que j'avais fait. Disons que, en fait, au 19e et au 20e siècle, la nature est un peu sortie du champ philosophique. En ce sens que on a beaucoup mis l'accent, d'une part, sur les questions politiques et que l'héritage des Lumières, par exemple, est considéré essentiellement comme les droits de l'homme, hein, un héritage de philosophie morale et politique, et que les questions scientifiques ont un peu absorbé la question de la nature qui s'est divisée en autant de disciplines et que la nature est plus apparue comme une unité englobante, un peu vieillie ou qui renvoyait à un romantisme auquel, personnellement, je n'ai jamais été très attachée.
Mais restons un instant sur ce point, la philosophie de la nature, dans la signification qu'elle avait au XVIIIe siècle. C'était une philosophie qui ouvrait vers une perspective, d'ailleurs, parfois franchement matérialiste, mais en tout cas rationaliste et extrêmement soucieuse de comprendre les mécanismes et les formes d'intelligibilité à l'œuvre dans la nature. Au XIXe siècle, il en est tout autrement. La philosophie de la nature désigne un tout autre concept.
Oui, une sorte de nostalgie pour ce que, justement, le développement trop rationnel, trop scientifique a occulté. Mais à ce moment-là, se met en place une opposition entre une philosophie de la nature, ou même, on va le dire en allemand, une Naturphilosophie, pour montrer le côté un peu mystique, et d'autre part, des sciences qui se développent en ne parlant plus de la nature. Et moi, ce qui m'a attiré dans ces questions d'écologie, d'environnement, c'est que ça remet la nature sur la scène philosophique d'une façon qui est différente de ce qu'on avait vu jusque-là. C'est-à-dire, je ne pense pas du tout... Et on a fait, notre Raphaël et moi, on a fait du bon usage de la nature, justement pour refuser l'idée que parler de la nature d'un point de vue environnemental, c'était forcément une nostalgie romantique. On a montré, au contraire, à quel point notre rapport à la nature était mis en forme par nos conceptions scientifiques et que nos façons de protéger la nature émergeaient de conceptions forgées dans la modernité.
Mais ce qui signifie que la figure comme figure de l'intégrité, de l'authenticité, de l'intouché en quelque sorte, est ce qui agit comme une force de préservation, c'est largement une construction ou une représentation qui est issue d'un degré extrêmement développé de civilisation.
Mais bien sûr, non, mais de toute façon, des idées de nature, il y en a plusieurs. Bon, ça ne signifie pas que la nature n'existe pas. Ça signifie que nos conceptions de la nature changent. Et de ce point de vue-là aussi, ce qui nous a frappé dans ces débats sur la nature, c'est qu'on est passé de ce que vous disiez, c'est-à-dire une idée d'une nature qui conserve, qui est un équilibre, qui est une permanence, à une idée qui s'est développée plus récemment et qui renoue avec des idées beaucoup plus anciennes aussi, qui est d'une nature comme constante perturbation, comme constant devenir. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, une nature qui est beaucoup plus ouverte sur l'avenir qu'elle n'est conservation du passé.
Mais comment explique-t-on alors que la nature et le naturel restent attachés à une préservation de l'authenticité, à une recherche de l'authentique ? Et on le voit de multiples façons. Dans une publicité, chercher le naturel, la vraie nature, et puis on vous présente des yaourts hautement parfumés, mais qui vous donneront le goût de la nature, ou bien des grands espaces totalement arrangés, mis en scène pour le plaisir des yeux et des activités sportives qui seront présentées comme pure nature. Cette connexion entre authenticité et nature, même lorsque la nature est totalement mise en scène, artificialisée à l'extrême, est toujours présente.
Notre idée de la nature est culturelle. Et Philippe Descola a montré que beaucoup de civilisations, d'autres cultures, n'ont pas d'idée de nature. Ce que nous avons dans l'idée occidentale de nature, ce qui reste à travers quantité de transformations, c'est quelque chose quand même qui existe par soi, indépendamment de nous. Et je pense que si ça peut prendre l'aspect de l'authenticité, quelquefois, c'est justement cette force de l'altérité, de quelque chose qui n'est pas entièrement notre fait, qui existe malgré nous et qui continuera malgré nous, comme façon de voir les choses.
D'une certaine manière, dans La maison du berger d'Alfred de Vigny, c'est la façon dont la nature est représentée, c'est-à-dire cette espèce de force indifférente qui voit défiler les générations humaines, qui ne leur doit rien, qui n'attend rien d'elles. Comme dit Vigny, ce n'est qu'une comédie. Mais cela dit, dans la plupart des romans, des œuvres lyriques inspirées par la nature, on a au contraire la représentation d'une affinité très secrète entre l'homme et la nature, les souffrances humaines et la nature, l'immersion en quelque sorte de la psyché humaine dans un paysage naturel qui est constamment en résonance avec elle. Ça a été un des grands thèmes de l'inspiration romantique.
Absolument, parce que le romantisme subjective la nature et met en scène une opposition qu'on ne trouvait pas avant, peut-être sauf chez Rousseau, qui est la nature en moi et la nature hors de moi. Et l'idée que la nature hors de moi est un écho de la nature en moi. Sorrow, l'Américain, l'auteur de Walden, a un passage où il dit, bon, la vraie nature, elle est en moi, elle est dans mes tripes. Bowels. Et donc cette idée qu'il y a une mise en écho de ce que je suis en moi et qui reflète ce qui est à l'extérieur est un élément fort d'attachement à la nature, et c'est là que se lie la liberté en moi et la liberté hors de moi, et que la nature apparaît, le wild and free de Sorrow, sauvage et libre.
Sauvage et libre. Alors justement, où est-elle cette nature sauvage et libre ? Où la trouve-t-on, cette wilderness ?
Alors là aussi, il y a deux choses. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est la nature extériorisée, les grands espaces où l'homme n'est pas. Hein, dont, où l'homme n'est qu'un visiteur temporaire, hein, c'est le Wilderness Act, qui est un texte législatif américain de protection de la nature. Alors, Ça, je dirais que cette illusion d'une... Enfin, je veux dire que c'est une illusion. Hein. Parce que même mais cette idée d'une nature dans laquelle je ne suis pas, on ne peut l'avoir qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. C'est très difficile en Europe, hein, où ce genre de wilderness a disparu depuis très longtemps. Hein, parce que la dernière forêt primaire, c'est une forêt polonaise qui disparaît au moment de la guerre de 14. On peut se dire, bon, la vraie nature, c'est la nature dans laquelle je ne suis pas, celle qui existe indépendamment de l'homme. Bon. Et on peut très bien montrer, là aussi, que c'est une illusion culturelle. Et que c'est plus l'humanité se développe, en particulier dans son nombre, plus c'est une illusion. Il y a plus d'endroits dans le monde où les hommes ne sont jamais allés, ou même indirectement. Donc, à ce moment-là, si on garde l'idée qu'il y a dans l'idée de wilderness, d'une nature, d'un jaillissement spontané dans lequel nous ne sommes pour rien, moi, je dis, c'est très simple. Hein. On prend n'importe quelle rue à Paris, on la barre au debout, on n'intervient pas pendant 15 jours, et puis il pousse de l'herbe. Hein. Et la nature, c'est ça aussi. C'est cette capacité d'exister malgré nous.
Alors, l'écologie, comment aborde-t-elle cette notion de nature? Parce que plusieurs courants se développent ou se déploient au sein de l'écologie. Certains insistent sur le caractère quasi sacralisé de la nature, comme une sorte de puissance à laquelle nous devons nous soumettre. D'autres, au contraire, considèrent la nature comme un équilibre à préserver, ce qui laisse penser à une forme d'artificialisation de la nature, précisément pour qu'elle puisse se maintenir dans un équilibre, dans un rapport qui puisse garantir la survie de l'espèce humaine. Comment caractériseriez-vous la conception de la nature, ou la diversité, la palette de diversité de conception de la nature, de l'écologie?
L'idée de mettre la nature au centre, ou disons de mettre au centre de notre réflexion nos rapports avec la nature, est quand même une idée qui est beaucoup plus développée dans les pays anglophones, et en particulièrement en Amérique du Nord, qu'en Europe, où ce qu'on appelle l'écologie est beaucoup plus centré sur les questions techniques, hein, sur le nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports à la nature, mais je pense qu'il y a une critique beaucoup plus vive en Europe des mouvements de protection de la nature qu'il n'y a aux États-Unis.
Mais quelle est la nature qu'on veut protéger, justement?
Alors, voilà, quelle est la nature qu'on veut protéger? Je dirais, d'abord, c'est celle qui est en danger. Et dans un premier temps, tel que ça s'est développé justement autour de la wilderness aux États-Unis, la nature qu'on veut protéger, c'est celle c'est cette nature sauvage, cette wilderness, qui est mise en danger par ce développement. Et c'est pour ça que c'est aux États-Unis, parce que la colonisation va très vite et a énormément détruit. Hein. Là où l'Europe, il y a des rapports finalement assez harmonieux des populations depuis des millénaires, l'arrivée brutale de colons aux États-Unis a fait qu'ils ont commencé par couper les forêts, par détruire, puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de détruire ce qui faisait leur identité même. Donc ils ont voulu le protéger. Au même moment en Europe, on se met à protéger des paysages. En France, une des premières protections, et c'est même antérieur, le Yellowstone aux États-Unis, c'est 1872, alors que ce qu'on appelle les séries paysagères qui sont protégées en France, ça commence par Fontainebleau, c'est à la fin du Second Empire, donc c'est antérieur. Il va y avoir très tôt en Europe l'idée aussi qu'on a quelque chose à protéger, mais on a protégé plutôt un modèle d'harmonie entre l'homme et la nature, qu'une nature sauvage. Donc on voit déjà là qu'il y a un choix. Mais quand les problèmes au milieu du XXe siècle deviennent beaucoup plus importants, à ce moment-là, on se dit c'est l'ensemble de notre environnement naturel, et quel qu'il soit transformé, qu'il faut protéger, parce qu'on est en train de le détruire à grande vitesse et d'une façon qui met notre vie en danger. À ce moment-là, on a d'autres modes de protection de la nature.
Mais d'un autre côté, les États-Unis sont arrivés à protéger de manière extrêmement contraignant de larges parties de leur territoire, en particulier leurs côtes ouest et leurs côtes est, ce qui n'a pas été le cas en France, en tout cas, mais pas de manière aussi systématique.
Il y a eu un souci de protection de la nature comme telle, si j'ose dire, aux États-Unis, qui est sans doute plus précoce que ce qui s'est passé en Europe, où il y a il y a des soucis de protection de la nature dès la fin du 19e siècle, mais en France, par exemple, la création des grands parcs nationaux français date du gaullisme. Et en général, en France, on s'oppose au retour de la forêt, ce qu'on appelle la clôture des milieux, et on cherche à protéger les milieux ouverts.
Mais d'autre part, des paysages caractéristiques de la France sont largement artificiels et résultent de systèmes de plantation tout à fait délibérés. Bon, parlons par exemple du Sud-Ouest.
Est-ce qu'on va faire une opposition rigide entre naturel et artificiel? Et à ce moment-là, mais on ne protégera plus rien, parce qu'on peut dire que de nature pure, il n'y en a pas. Hein. Ou bien est-ce qu'on considère que le naturel et l'artificiel sont deux pôles entre lesquels se déploie toute une série de possibilités et que, on distinguera par exemple un artificiel intentionnel, un champ de blé et intentionnellement comme ça, d'un artificiel de conséquence. C'est-à-dire que ce qu'on fait à un endroit a des conséquences ailleurs. Donc ce n'est pas la même chose d'avoir un impact et d'avoir une transformation intentionnelle. Et puis on peut faire toute une série entre l'arbre qui a poussé de lui-même, si je parle du sapin, un sapin originaire, et puis un sapin en plastique. Et entre les deux, il y a quantité de possibilités. Et donc l'idée finalement, c'est que nous pouvons agir avec la nature sans pour autant lui imposer une forme artificielle.
Revenons à la préoccupation environnementale, donc, qui met en avant le souci de limiter les activités humaines qui ont des conséquences sur la nature, des conséquences incontestables, de limiter ces activités humaines pour préserver une forme de nature. Alors, que faut-il entendre par cette forme de nature? Est-ce que c'est une forme de nature comprise comme ce qui doit garantir la survie de l'espèce humaine? Nous avons besoin de ressources naturelles, sans quoi il est non envisageable d'envisager que l'espèce humaine puisse continuer à se développer. Ou bien est-ce que c'est une nature comme valeur et comme incarnant une force ou une réalité qui, d'une certaine façon, va au-delà de la simple condition absolument requise pour garantir la survie de l'espèce humaine?
Alors, on peut dire qu'il y a eu les deux types d'explications. La forme la plus radicale, bon, je renverrai toujours à ce qui s'est passé aux États-Unis, et c'est une chose ancienne qui remonte à la moitié du 19e siècle à peu près, et puis qui est développée ensuite, l'idée qu'on préserve la nature pour elle-même. Et c'est l'idée qui a conduit au concept de valeur intrinsèque. L'idée, donc l'intrinsèque par opposition à l'instrumental, donc justement, par rapport à ce que vous disiez, on ne préserve pas les moyens dont on a besoin, on préserve la nature pour elle-même.
Non pas les ressources qu'elle représente.
Non pas les ressources qu'elle représente, mais ce qu'elle est en elle-même et ce qu'elle vaut par elle-même. Et c'est là que très vite apparaissent des formes de sacralisation. Quelqu'un comme John Muir, qui est à la fin du 19e siècle, un de ceux qui vont avancer l'idée de valeur intrinsèque, à un moment où il y a eu un conflit autour de la construction d'un barrage dans un site protégé au-dessus de San Francisco et qui devait donner de l'eau à San Francisco, qui en plus était menacé, qui avait eu un tremblement de terre, qui était menacé par les incendies, etc. etc. John Muir s'opposait à ça pour la nature elle-même et il a dit « Mais noyer ces espaces, c'est comme transformer une cathédrale en silo à grains. » Donc, il y a là, l'espace qu'on veut protéger pour lui-même, on va très facilement le sacraliser. On peut aussi dire, et ça a été développé, dans l'idée que, effectivement, d'une part, dans notre intérêt, nous avons intérêt à préserver de l'énergie, des ressources à manger, etc. On peut dire aussi que nous pouvons avoir, pour notre intérêt même, un intérêt pour la nature qui nous amène à la laisser telle qu'elle est. Un amoureux de la montagne ne va pas vouloir qu'on se mette à construire au sommet du Mont Blanc.
Mais pourquoi, justement? C'est intéressant. Enfin, si la question est posée de manière totalement abstraite, ça va de soi. Mais lorsque ça entre en conflit avec de véritables besoins humains, besoins de développement et autres, qu'est-ce qui justifie, justement, cette restriction d'action pour ne pas avoir d'effet sur la nature et la préserver telle qu'elle est? Parce que quand c'est présenté dans l'abstrait, tout le monde est d'accord, mais quand c'était présenté dans la dimension d'un véritable conflit, où il faut renoncer à des acquis humains ou à des facilités humaines pour quelque chose de ce type, quel est l'argument qu'on avance ?
La question ce qui se pose, c'est est-ce qu'il y a véritablement conflit et jusqu'à quel point il y a véritablement conflit et est-ce que c'est un conflit entre l'homme d'un côté et la nature de l'autre ou entre différentes façons de vivre dans la nature ? Je vais prendre un exemple. Il y a une dizaine d'années où il était question de construire une autoroute vers la Sarthe, et où cette autoroute passait dans un espace tel que la survie d'une espèce protégée, qui était un petit insecte sans intérêt, hein, était, enfin sans intérêt, je veux dire, sans, pas du tout emblématique, hein, simplement c'était une espèce protégée, le pic-prune. De son nom vulgaire. C'était une femme qui était préfet, je crois, de la Sarthe, et qui a fait arrêter l'autoroute. Alors, est-ce qu'il faut dire c'est le pic-prune contre l'autoroute ? Ou est-ce que c'est un mode de vie ? En fait, à travers le pic-prune, on protège le bocage, une forme paysagère traditionnelle et qui n'est pas de l'agriculture, je veux dire. Bon. Est-ce qu'on fait une France complètement couverte d'autoroutes et d'où toute forme de paysage disparaît ? Ou est-ce qu'on essaie de préserver en même temps et le pic-prune et des modes de vie qui vont avec le bocage ? Je crois qu'en Europe, le problème se pose dans ces termes. On n'est jamais entre nourrir quelqu'un ou garder la forêt.
Certes, en Europe, oui, et bon, il faudrait préciser quels peuvent être les principes de l'arbitrage, mais on comprend, ça fait partie aussi des éléments. La contemplation de la nature est un élément qui a formé même nos aspirations, nos désirs et nos besoins, et même nos préférences. Alors s'il faut mettre en comparaison des préférences, celles pour le bien-être et celles pour l'intégrité des paysages, même d'un point de vue strictement utilitariste, seraient tout à fait comparables. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que celles qui vont en faveur de la préservation du paysage soit plus forte que celles qui vont en faveur de la satisfaction des désirs immédiats. Mais là où il y a rareté des ressources et où le développement des ressources passe par la dégradation de la nature.
Si on prend l'exemple, par exemple, du programme Yasuni en Équateur, où ça a finalement échoué, hein, mais le président de l'Équateur avait proposé que bon c'était un parc naturel, le parc Yasuni, qui était habité et qui avait des réserves de pétrole, et il a proposé de geler ces réserves à condition que la communauté internationale lui donne l'équivalent de ce qu'ils auraient pu en retirer en les exploitant. Bon, donc on n'avait pas un conflit entre développement et protection de la nature, parce qu'en plus les choses se compliquent, hein, si on prend le pétrole, si on tire le pétrole, on fait des émissions de CO2, donc les choses sont, je veux dire, on a très volontiers montré ça comme un conflit direct entre développement et protection de la nature. C'est rarement le cas. Et on peut se dire qu'un pays qui est obligé de couper sa forêt pour donner aux gens à manger, c'est un pays où il y a des gros problèmes sociaux.
Oui, certainement. Mais enfin, il faut bien aussi, me semble-t-il, être conscient du fait que cette question et cette interdiction là, de toucher à un environnement naturel auquel nous sommes très attachés, c'est une question pour notre temps, parce que nous sommes allés très loin dans l'exploitation de la nature. Mais il va de soi aussi que tout le développement humain, depuis plusieurs millénaires, s'est fait au détriment de la nature.
Là aussi, je ne sais pas s'il faut toujours le dire au détriment de la nature. C'est là que je disais, par exemple, si on prend l'Europe, le très long développement agricole n'a pas détruit l'environnement agricole au point où ça s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, quand on est parti à la recherche d'une productivité extrêmement violente. Il y a eu une très longue coexistence entre l'humanité et son environnement naturel. Cette coexistence est mise en cause.
Ce à quoi il a été porté atteint, c'était à ce mythe de l'intégrité de la nature. Elle a été transformée. Elle a été transformée de manière naturelle, peut-être, mais elle a quand même été transformée par l'action humaine.
Oui, mais de quand ? Je veux dire, ce mythe de l'intégrité de la nature, il arrive au moment où on se pose la question de sa survie.
De la perdre définitivement, ouais. En effet. Alors, pour les philosophes, la nature a, en tout cas depuis le XVIIe siècle, d'une certaine façon, joué un rôle de référence philosophique. La nature, c'est ce qui devait être, en rupture très claire avec l'aristotélisme et la notion de physis aristotélicienne, ce qui devait être intégralement intelligible. Et aujourd'hui encore, dans certains débats, par exemple de philosophie de l'esprit, le naturalisme désigne une position qui consiste à poser par principe, à titre de postulat, que tous les états mentaux ou différentes activités humaines pourront être ramenés à des quantités, à des réalités physiques tout à fait identifiables. Alors, là, on a affaire à une utilisation de la référence à la nature qui est, au fond, très, très différente, très, même à première vue totalement incompatible avec cette tentation de sacralisation de la nature par laquelle a dû passer la volonté d'attirer l'attention sur la nécessité de la préserver.
D'abord, les programmes auxquels vous faisiez allusion sont des programmes, on peut dire, de naturalisation. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus un programme d'une connaissance en marche. Et on peut dire que pour ces programmes, la nature n'existe pas. Il n'y a que des naturalisations. C'est-à-dire qu'on est en route dans un processus de connaissance qui se continue. Et dans une visée essentiellement réductionniste.
Oui, on est chez l'animal-machine. Enfin, ce n'est pas l'animal-machine, voilà. c'est le cosmos-machine. On imagine des plans inclinés, des leviers, des poids, des contrepoids.
Voilà, c'est la forme d'aujourd'hui de l'animal-machine cartésien. Donc je crois que là, on peut dire simplement qu'il y a vraiment deux conceptions de la nature en jeu. Et ce qui s'impose alors, avec l'écologie comme science, c'est une vision de la complexité où justement tout n'est pas intelligible, tout n'est pas prévisible, tout n'est pas réductible.
Je ne voudrais quand même pas du tout être critique à l'égard du naturalisme en philosophie, qui est une position tout à fait respectable et qui exprime une véritable ambition de scientificité, certes, et d'intelligibilité. Bon, peut-être que parler de naturalisation, de naturalisme évoque un modèle de physique et de science qui est maintenant totalement dépassé, enfin pas toujours vrai, mais en tout cas qui ne résume plus la totalité de la science physique. Mais d'un autre côté, dans ces recherches philosophiques, l'ambition de naturalisation est l'expression d'une ambition de scientificité, où quelle que soit la complexité, pour finir, on va arriver, comme c'est le cas avec la complexité du système biologique, à des éléments fondamentaux identifiables.
Oui, mais ça, c'est très précisément du réductionnisme, et je ne vois pas pourquoi il faudrait dire que toute forme de scientificité est réductionniste. Sinon, si je puis dire, on va renoncer à comprendre quoi que ce soit au changement climatique, puisque l'approche du changement climatique et en termes de complexité, c'est une approche hautement scientifique, extrêmement ambitieuse, mais dont l'ambition n'est pas un éclaircissement complet.
Et elle n'est pas en opposition avec l'humanisme, parce que nature et humanisme sont également souvent posés l'un face à l'autre. Et il a même été dit que certaines préoccupations écologiques allaient clairement à l'encontre de la revendication humaniste qui suppose au contraire qu'on puisse constamment se détacher de la nature.
Alors, vraiment, on a écrit du bon usage contre l'opposition entre naturalisme et humanisme et dans l'idée qu'il y avait une réconciliation possible.
Merci Catherine Larère pour cet entretien. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission. Merci à Michel Mestre qui était à la technique et merci à Marie Delquier. Thank you. Tout de suite, vous retrouvez Marie Richeux pour Pas la peine de crier. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain, à la même heure. D'ici là, très bonne semaine à tous.